Alors justement, on va parler de manipulation d'URL pour ce qu'elles ont été conçues et comment cette intention peut être gravement incomprise. Nous allons voir les dangers de manipuler l'URL affichée dans la barre de navigateur de votre browser, à moins que cela soit l'électronisme des élites. Nous recevons Olivier Laurelli, alias Bluetooth, activiste, InfoSec Manager, cofondateur et data journaliste pour Reflet.info, homophone d'un roi viking et d'une norme de transmission radio.
CPU carré petit utile.
Une affaire juridique porte le nom de ton pseudo. Pour résumer les faits, ça date de 2005, tu as fait une recherche sur Google et t'as téléchargé pour 5 gigaoctets de documents d'un serveur de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, mais plus connue pour la régulation des médicaments. Alors, pourquoi on en parle dans une émission consacrée à la construction d'une URL? C'est qu'en fait, on te reproche d'avoir modifié l'URL dans la barre de navigateur. C'est bien ça?
Alors, techniquement, c'est tout à fait ça. Faut savoir qu'à l'époque, on travaillait avec Reflet pas mal sur tout ce qui était révolution arabe. Et l'origine de cette histoire, c'est ce qu'on appelle un dork Google, un dork malheureux, on va dire, ou heureux, hein, c'est souvent. Donc, un dork, c'est quoi? C'est une recherche avancée. Il y avait un outil à l'époque qui existe d'ailleurs sûrement toujours, qui s'appelle Google Advanced Search, qui fait exactement le même, sauf que moi, je tapais simplement les requêtes à la main. Donc, le juge en a déduit qu'il s'agissait d'une recherche. Déjà, alors, on va commencer parce que vous allez voir, il y a du suspense un petit peu dans cette histoire. Ça a commencé parce qu'il était une recherche complexe. Donc, ouais, ok, pas spécialement complexe. Donc, simplement, je cherchais des documents de type doc, Word, PDF, des trucs comme ça, dans des folders non indexés, en fait. Hein, enfin, où on retrouvait tous les noms de fichiers et tout ça. Donc, forcément, quand on arrive là-dessus, bah, qu'est-ce qui se passe? On clique sur une URL. Mais ben, quand on clique sur une URL, après, ben, on voit dans la barre d'URL qu'on est dans une arborescence et on remonte dossier par dossier et tout ça pour retrouver les documents. Question d'URL, quelque part.
Attends, donc, sur la notion d'URL, on est bien d'accord, tu manipulais que le PAF une fois que tu es arrivé sur le serveur.
Ah oui, tout à fait, oui.
Et ce que tu fais, c'est un truc qui est vachement à la mode en ce moment, ça s'appelle l'OSINT.
Oui, oui. En fait, si tu veux...
Alors, je dis ça parce que on a un compatriote sur Toulouse, Baptiste Robert. Je tiens à lui signaler, hein, attention, on peut arriver des conneries, hein, gaffe.
là, c'était pas de l'usine très avancée, si tu veux. C'est le fonctionnement normal d'un serveur web. T'arrives sur une URL, dans la barre d'URL, si t'as envie de remonter dans l'arborescence, bah, t'enlèves ce qu'il y a derrière le dernier slash et puis ainsi de suite. Faut savoir que c'est un comportement tout à fait normal de serveur. À partir du moment où tu souhaites avoir des trucs privés, là, ça fait appel à autre chose qui s'appelle les permissions. Ça s'appelle pas un robot .txt où tu fais un disallow quelque part et tout ça, mais sans fixer les permissions. Là, ça ne fonctionne pas dans ces cas-là. Ça s'appelle une invocation.
On rappelle que robot.txt, c'est un fichier de configuration pour les crawlers qui vont sur les sites, du moins pour ceux qui les respectent. Donc les permissions, en général, ça, c'est les paramétrages du serveur ou de l'arborescence de fichiers que le serveur présente en fait au public. Donc, tu as été poursuivi pour maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et vol de documents. Alors, je reprends le titre du site Le Petit Juriste. Ils l'ont joliment résumé en « condamné pour vol de données librement accessibles ». Comment pouvais-tu savoir que les documents n'étaient pas publics et à diffusion restreinte ?
Alors c'est simple, tu pouvais absolument pas le savoir. On était sur une URL de type, enfin je crois que c'était extranet.nses.fr/docs. /docs, ouais. Puis donc après, il y avait plein de noms de fichiers, de sous-répertoires, de trucs comme ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé au /doc et que j'ai vu qu'il y avait plein de documents. Et puis comme je me suis dit, au lieu de chercher à fouiller et tout ça, on cherchait à faire des articles justement sur les nanomatériaux, sur les trucs des antennes 5G, enfin 4G à l'époque plutôt. Oui. Et du coup, bah, j'ai lancé un gros wget bien sale, hein, c'est-à-dire que j'ai aspiré en gros tout ce qu'il y avait dans le répertoire. Quoi.
Wget est un utilitaire en ligne de commande, mais il existe des front-end graphiques où on donne un point d'accès et il va crawler tous les liens qu'il y a dans la page, on est bien d'accord, hein.
Exactement, et récurrent, comme ça en fait tous les documents. Il y avait une autre petite subtilité, pourquoi j'avais fait ça, c'est que tout simplement quand tu cherches des trucs très précis dans plusieurs centaines, voire milliers de documents, le fait de les télécharger, de les avoir sur ton ordi, ça te permet de les indexer et pouvoir faire une recherche et pas avoir à cliquer dans tous les sous-répertoires, tu vois, pour essayer de trouver un truc un petit peu au petit bonheur, la chance. Donc là-dessus, il y avait un vrai intérêt qui n'a pas non plus été compris, si tu veux, par le juge. Enfin, ils ont compris à peu près ce qu'ils voulaient. Mais voilà, donc si tu veux, la base de l'histoire, c'est un petit peu ça, quoi.
Alors reprenons, donc tu arrives sur un serveur de l'ANSES en arborescence profonde, donc c'est un lien profond, en plein milieu, c'est la caverne d'Ali Baba, tu trouves plein de données, tu récupères ces documents.
Je précise qu'à aucun moment il y avait une authentification qui t'était demandée quand tu cliquais sur un fichier, à aucun moment il y avait marqué sur les documents qu'ils étaient confidentiels et patati et patata. Tant et si bien que d'ailleurs, en fait, il y a eu personne derrière pour porter plainte. C'est-à-dire qu'en premier instance, déjà au niveau partie civile, la NSES n'était pas plaignante, et évidemment, en appel, ne l'était pas non plus.
Reprenons. Quand et comment l'ANSES a été mis au courant que ces documents étaient à portée de tous ?
Quand ils ont découvert un article sur reflet.info sur les nanomatériaux où il y avait certains de leurs documents.
Donc on avait pris
des cartes, vraiment, je ne sais plus.
Abonnez-vous, supportez la presse indépendante. Oui, je sais, toi aussi tu as une moustache et tu le ferais sûrement très bien. Mais du coup, donc ils l'ont découvert sur cet article. Et ils n'ont pas porté plainte, du coup, c'est pas eux qui ont porté plainte.
Alors si, ils sont allés porter plainte et puis ils sont aperçus qu'en fait, chez eux, tout était en open bar.
Ah!
Voilà, et puis après réflexion, ils sont aussi aperçus que les documents étaient quand même pas confidentiels, que c'était des documents de recherche, et tout ça, c'est des trucs qui sont dans les PV, mais très régulièrement, ce que tu vas retrouver dans la presse qui a couvert ça, c'est que les documents étaient confidentiels, et c'est pas du tout le cas. La NSES a bien expliqué que les documents n'étaient pas confidentiels, qu'il s'agissait de documents de recherche internes, machin et tout ça, qui n'étaient pas destinés à être publiés, certes, mais c'est encore aujourd'hui, 13 ans après, que tu vas retrouver certains de ces documents d'origine sur des Google Drive, des chercheurs eux-mêmes, qui sont toujours en fait en open bar.
Alors qu'ils pourraient le mettre sur un cloud souverain, lui aussi en open bar, on est bien d'accord.
Le côté confidentiel des documents, si tu veux, à ce moment-là, je l'évacue tout de suite. Déjà, sur le coup, je l'évacuais. Donc, confirmation de la NSES, ces documents ne sont pas confidentiels.
Ah, mais alors, c'est qui a porté plainte ?
Alors, c'est le procureur de la République qui a vu là sûrement une occasion de dire « Tiens, on va consacrer le vol de données, c'est parfait, ce petit bidule est parfait. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comment ils ont procédé, si tu veux, pour arriver à me condamner ? Donc, il faut savoir que déjà, d'une part, je suis relaxé en première instance. La première instance, évidemment, comprend qu'il n'y a pas eu d'intrusion, la NSES a découvert dans la presse. Pourquoi ? Parce que les firewalls n'ont pas sonné. Pourquoi ils n'ont pas sonné ? Parce que le rôle du serveur Apache, à ce moment-là, c'était de servir des fichiers. Donc, OK, ça passe. Et je me retrouve donc assigné en appel par le procureur de la République, en fait, en gros, par le procureur, qui se dit on va aller en appel et puis on va se démerder pour faire condamner Monsieur Lorelli. Voilà.
D'accord. Dans l'histoire, quand même, tu as un intervenant qui te vaut une belle médaille, quand même, il faut le dire, c'est que c'est la DGSI, la Sécurité Intérieure, qui s'est emparée de l'affaire. Comment ça se fait ?
Alors là-dessus, il y a beaucoup de mythologie en fait là-dedans. Pourquoi la DGSI, hein ?
Je crois me souvenir qu'à cette époque-là, c'était Squarcini d'ailleurs, l'âme damnée de Nicolas Sarkozy.
Je saurais pas te dire. Il faudrait vérifier. Je saurais pas te dire. Mais toujours est-il que c'est tout à fait normal que ce soit la DGSI en fait qui soit chargée du truc pour une raison toute simple, c'est que la NSES, c'est ce qu'on appelle un OIV, une organisation d'importance vitale, en fait, pour l'économie, la sécurité, je sais pas quoi, et tout ça de la nation. Et donc, dans ces cas-là, c'est la DGSI qui se voit confier l'enquête, et c'est exactement ce qui s'est passé.
Dans l'affaire, l'un des faits que la procure a souligné est que tu as accédé à ces serveurs via un VPN. D'ailleurs, une solution VPN que tu commercialisais
via mon entreprise, ouais, tout à fait, ouais. que je commercialisais moi-même via ma boîte, en fait. Hein. Et là, c'est pareil, en fait, il s'agit vraiment du fonctionnement normal d'un VPN bien configuré sur un poste Linux, ce qui était le cas de ma configuration. Quand tu démarres en fait ton ordinateur, le VPN démarre comme un service. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, dès que mon ordinateur démarre, effectivement, je suis sous VPN. Petite subtilité, le point de sortie de mon VPN était localisé au Panama. J'aurais pu en avoir un autre, mais là, c'était au Panama.
C'est pourquoi ? Parce que le catalogue Netflix est plus riche là-bas
Alors non, pas du tout. En plus, il n'y avait pas de Netflix à l'époque.
Si, mais par courrier.
Et voilà, c'était simplement une question de d'hygiène informatique. Quand tu te connectes à Internet, c'est bien de chiffrer ton trafic, c'est bien de planquer ta localisation, d'échapper à des trackers publicitaires et des saloperies comme ça. Donc, ça fait une grosse partie du boulot de la sécurisation de tes flux de communication sur le net. Et encore aujourd'hui, j'utilise un VPN. Alors, je ne sors plus au Panama, je ne sors pas non plus à Dubaï. Enfin voilà. Mais voilà, enfin, moi, je recommande vivement aux gens d'utiliser un VPN, toujours.
Est-ce qu'on a tenté d'utiliser le fait que tu utilisais un VPN comme étant la manière de masquer, je vais dire, ton acte supposé criminel? C'était pas aussi une manière de tenter de te faire porter le chapeau pour le manque de compétences de l'ANSES?
Alors, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui a dû être piqué au vif et tout ça à l'ANSES, et si tu veux, c'est pour ça qu'ils sont allés porter plainte au début, avant de se rétracter. Mais je pense pas que l'ANSES soit spécialement fautive là-dedans. Ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une connerie, c'est, voilà, il y a quelqu'un qui a dû se faire taper sur les doigts, enfin, je suis désolé, mais en même temps, enfin voilà, ils l'avaient peut-être mérité. Voilà, bon, je pense pas vraiment qu'on puisse blâmer l'ANSES vraiment là-dedans, tu vois. Il y a vraiment plutôt eu un jeu de couloir au niveau de plusieurs procureurs, d'ailleurs, de deux procureurs, pour se dire, mais voilà, on va avoir notre petite jurisprudence pour le vol de données, pour consacrer le vol de données. Même si on part d'un fait qui est techniquement ultra bancal, quoi. Enfin, si tu veux, il y a pas d'intrusion, il y a pas moyen de savoir si les documents sont confidentiels, et puis manque de bol, ils le sont pas, tu vois. Enfin voilà. Alors effectivement, après, le fait que je sois anonyme derrière un VPN avec un pseudonyme, tu te rends compte. Bon, alors tu tapais Bluetooth, en fait, sur Twitter, t'avais mon nom en dessous, hein, Laurent Olivier Lorelli. Donc je vais être l'anonyme le plus connu, en fait, du net à ce moment-là. Il y a eu tout un tas, en fait, si tu veux, de petits détails techniques comme ça qui ont forcément excité les curiosités des uns et des autres qui bitaient que dalle. D'ailleurs, faut bien comprendre un moment que t'as la procureure qui t'explique qu'en fait elle n'a rien compris à ce qui s'était dit, mais qu'il fallait quand même me condamner. Et elle avoue que son gosse de 14 ans a mieux compris ce qui s'est dit le jour de cette audience. Enfin, c'était surréaliste, si tu veux. Et à partir du moment où tu te retrouves avec un juge qui ne sait pas prononcer Google, qui te dit Google, qui ne sait pas prononcer login, tu vois, tu te dis que ça va être super chaud, en fait, de leur expliquer la différence entre des permissions. Et enfin voilà, tu te dis que c'est pas possible, que tu peux pas te défendre, en fait, efficacement dans ce genre de conditions.
Est-ce qu'à un moment, en face du côté de la procure, il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il y avait peut-être un problème du côté partie civile?
Ben, si tu veux, il n'y avait pas de problème, puisque les parties civiles, il n'y en avait pas, encore une fois. Il n'y avait justement que la procure. Encore une fois, il n'y avait pas de victime, il n'y avait pas de préjudice, voilà. Il n'y avait pas de partie civile, ok. On l'a accès en première instance, mais on y va quand même, quoi, tu vois. Et en fait, ça serait anecdotique si ça m'était arrivé qu'une fois, cette histoire, mais tu le sais probablement, ça m'est arrivé une deuxième fois. Exactement pareil. Et les faits se sont déclenchés, c'était à peu près la même période, c'est assez rigolo.
Et justement, pour raconter cette deuxième histoire, rapido.
Alors, la deuxième histoire, ça remonte à une époque où il y avait des gros dénis de service sur des fournisseurs de services français. Et c'était une faille Valve qui était exploitée. Donc, c'est le moteur de jeux vidéo, de je ne sais plus quel jeu de shoot et tout ça. Et OVH, qui fournissait énormément de serveurs de jeux, bah, était la source de ce truc-là. Et dans un article sur un blog, mais vraiment, tu vois, enfin, un petit blog sur lequel j'avais vraiment personne qui passait, c'était très bien où je balançais mes conneries, je publie l'exploit que j'avais trouvé, donc c'est un truc en peur, machin, c'était relativement pas utilisable et tout. Et là, faut bien savoir un truc, c'est qu'au même moment, tu trouvais le point exe où tu rentrais l'IP et tu pouvais t'amuser à DDoS, quoi. Hein, tu vois, c'est un DDoS réfléchi et amplifié, ce qui fait qu'avec une toute petite connexion, tu pouvais mais faire des dégâts phénoménaux, si tu veux. Donc, c'est vraiment un problème avec ces serveurs de jeu. Bon, je publie ce truc-là et tout, et puis très longtemps après, enfin quelques années après, je reçois une convocation, un commissariat de police à côté, et puis voilà, bah, là, je rencontre quelqu'un, tu vois, enfin voilà, le mec, il avait oublié de me dire qu'il était de la DGSI. Et puis il me pose plein de questions, il me dit voilà, alors après j'ai compris, puisque comme c'était les impôts, si tu veux, j'ai repercuté derrière. Il y a un gars qui s'amusait à DDoS le site des impôts avec cette technique-là. Donc effectivement, le site des impôts a dû tout sauter pendant une heure, tu vois, enfin bref. Ils avaient identifié mon blog, et donc ils avaient identifié du coup que c'était moi. Bah forcément, c'était sur mon serveur en même temps, tu vois. Bon, bref. Et je dis oui, tout à fait. Ouais, c'est bien moi qui ai publié ce truc-là, mais c'est un document. Enfin voilà, comme expliqué dans l'article, c'est un script qui était là. Enfin oui, mais il y a quelqu'un qui a DDoS les impôts, vous avez peut-être fourni les moyens de le faire. Ok, bon, alors moi à l'époque, en plus, j'avais plus le log de ce truc-là, enfin, c'était vraiment quelques années après. Et j'en entends plus parler pendant très longtemps. mais vraiment très longtemps. Et puis un jour, je reçois une amende de 500 balles. Et je me dis, putain, ça doit être les faux frais du procès avec la NSES, les faux frais de justice. Je regarde, je fais, ah, attends, ça n'a rien à voir, c'est une amende, quoi. Et c'était une amende, donc, pour avoir fourni les moyens, pour avoir publié des matériaux susceptibles à nuire à des systèmes de traitement de données. Enfin, bon, bref. Un truc, bien capillotracté, si tu veux. Et donc, j'appelle mon avocat et il me dit, faut faire opposition au jugement parce qu'ils avaient essayé de me trouver, mais ils m'avaient pas trouvé. Donc, je comprends pas trop comment parce que, si tu veux, pour la NSES, la même affaire, ils avaient mon adresse, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais là, pour celle-là, c'était en même temps le truc. Non, ils avaient pas mon adresse, dis donc. Donc, ils ont pas réussi, en fait, à m'assigner en justice à ce moment-là. Donc, je fais annuler la première instance et puis on refait une première instance et tout, où évidemment, pas la dame, j'explique, le truc était là, j'apporte tous les éléments que je peux, évidemment je suis relaxé. Et qu'est-ce qui se passe? Je dis à mon avocat, vous allez voir, c'est pas terminé. Lui, il me dit non, c'est vrai, c'est fini, tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'on t'emmerde? Vous allez voir. Et ça a pas raté, donc quelques semaines après, je reçois la notification de l'appel du jugement de première instance, encore une fois sans plaignant, sans victime, parce qu'évidemment il n'y avait pas de partie civile non plus, c'est vraiment le procureur de la République qui repart en fait seconde couche. Et puis là, je dis à mon avocat, c'est quand même curieux, et je lui dis, vous allez voir, en fait, il y a deux alternatives, et je lui donne les noms des procureurs que je voyais bien là, donc. ça a pas raté, quoi, tu vois. Donc, je tombe sur ma Myriam Kamener, qui n'avait pas dû juger une affaire depuis je sais pas combien de... elle avait pas dû participer à un truc depuis des mois. Tu sais, c'est vraiment tout venant, en plus, ce genre de chambre criminelle. J'arrive à me faire condamner, quand même, en fait, en seconde instance. Vraiment de la même manière que la NSES. C'est un alignement des planètes, quand même, assez particulier. Je pense que c'est pas arrivé à beaucoup de monde...
Pour revenir à l'affaire à l'ANSES, donc les faits datent de 2005, puis ensuite donc le premier procès, c'est quelle époque?
C'est quelques années après, je me rappelle même plus de l'année, c'était 2007-2008, je sais même plus. 18 mois après, un truc comme ça, l'appel.
Et t'es allé à la cassation?
Alors je suis allé en cassation. La cour de cassation, effectivement, a jugé, comme elle le fait, sur la forme et pas sur le fond. Donc, sur la forme, ils ont admis que le vol de données... Alors, ils n'ont jamais parlé du vol de données, c'est ça qui est extraordinaire. Ils ont admis que l'intrusion et le maintien frauduleux étaient deux délits distincts, donc ma condamnation était justifiée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir maintien frauduleux dans un espace public, en fait, en gros.
Et à coup de requête-guette.
Voilà. Des fois, tu vois des trucs publics, un document public dans un espace public. Ah, ça va, c'est un organisme public. Sur des questions de santé publique. Mais c'est pas public. faut faire gaffe.
Attention, les hackers de l'anti-France qui tentent d'attaquer nos opérateurs d'importance vitale, vous pouvez vous retrouver au tribunal. Si d'aventure tu tombes sur un document qui semble intéressant sur un site d'une agence française, que ferais-tu? T'appelles l'ANSI ou ton avocat?
Franchement, j'envoie pas de fax maintenant. Je préviens plus personne, en fait.
D'accord.
Et c'est pendant très longtemps, j'ai prévenu de vulnérabilité, puis de machin, comme ça, j'en ai plus rien. Je le fais plus, en fait. Il y a moins de risques à aller gifler un président aujourd'hui qu'à aller fouiller les documents. Je t'assure, je pense que c'est moins chiant. Ça devient délirant, si tu veux, tout ce qui est... commis ou autour d'Internet, dès que tu as le mot Internet, quelque part, ça devient une circonstance aggravante. Et en plus, des fois, ça devient des circonstances aggravantes à des délits imaginaires, quoi, tu vois.
Et si l'ANSES revient vers toi pour une analyse de sécurité, style pen testing ou bien red team, tu inclus 3000 euros pour l'analyse préalable?
Pour les faux frais, ouais.
On va peut-être expliquer pourquoi. Quelle a été ta condamnation finale?
J'ai été condamné à 3000 euros d'amende et une inscription au carnet judiciaire.
Et donc, c'est sur ces révélations absolument fracassantes du bon usage de l'argent public que Olivier Loraï, nous terminons cette interview. Mille merci à toi. On rappelle donc que tu es toujours au sein de l'équipe de Reflet.info et que donc on peut te lire. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à s'abonner pour soutenir cette revue. Merci à toi.
Merci.